Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. 10 ans après le début de la révolution en Égypte, Amnesty International brosse un tableau particulièrement sombre de la situation des détenus dans les prisons du pays. Selon l'Organisation de défense des droits humains, les cellules sont remplies d'hommes et de femmes courageux qui étaient à la pointe du combat pour la justice sociale et politique avant, pendant et après le mouvement populaire de 2011. L'enquête d'Amnesty montre également que les autorités pénitentiaires égyptiennes auraient délibérément choisi de ne pas protéger les détenus contre la pandémie du Covid-19 et qu'elles feraient régulièrement preuve de discrimination envers les détenus issus de milieux socio-économiques défavorisés. C'est le sens, en tout cas, de l'intervention de Katia Roux, notre invitée, la responsable de plaidoyer liberté à Amnesty France. Nous irons ensuite à Jérusalem et au Caire pour lire la presse régionale avec nos correspondants Alexandre Bouchanti et Michel Paul. Bonjour Katia Roux.
Bonjour Éric Bataillon.
Chargée de plaidoyer liberté à Amnesty International France. Alors il y a 10 ans, le président Hosni Moubarak quittait le pouvoir en Égypte sous la pression de la rue. 10 ans et 3 élections présidentielles plus tard, Amnesty International alerte la communauté internationale sur les conditions de détention des opposants dans les prisons du régime du maréchal Sissi. Katia Roux, qui occupe les cellules précisément de ces prisons égyptiennes? Est-ce qu'il s'agit de droit commun ou beaucoup de délits d'opinion?
Alors malheureusement, on a vu que le président Sissi, depuis son arrivée au pouvoir, a rempli les prisons égyptiennes avec de très nombreux opposants politiques, défenseurs des droits humains, militants pacifiques des droits humains. Celles et ceux notamment qui ont porté la révolution il y a 10 ans sur la place Tahrir se retrouvent aujourd'hui en prison, détenus dans des conditions absolument cruelles et inhumaines. Et donc, effectivement, il est très très important aujourd'hui, à l'occasion des 10 ans de la révolution, d'interpeller ces autorités pour qu'elles mettent fin à cette répression.
Alors justement, vous parlez des conditions de détention cruelles et inhumaines, ce sont vos mots. Quelles sont ces conditions précisément?
Alors, il est clair que l'administration pénitentiaire fait preuve d'un mépris total pour la santé, pour le bien-être et même la vie des prisonniers égyptiens. Quand on parle de conditions cruelles et inhumaines, on parle déjà de cellules surpeuplées. Il faut savoir que les agences des Nations Unies estiment qu'il y a plus de 114 000 prisonniers aujourd'hui en Égypte. Or, la capacité d'accueil, des mots même du président Al-Sisi, est de 55 000 prisonniers. Donc, on imagine effectivement la place que peut avoir chaque détenu en prison. Et donc, c'est ça quand on parle de cellules surpeuplées. C'est aussi des personnes qui dorment à même le sol, sur des couvertures. Il fait très froid l'hiver, très chaud l'été. Il n'y a pas de ventilation, il n'y a pas d'aération, il n'y a très peu de lumière. Les installations sanitaires sont absolument délabrées, insalubres. Les toilettes sont souvent dans la cellule, sans séparation. Et puis, bien sûr, il n'y a pas d'accès aux soins médicaux. Et donc, dans le contexte actuel de Covid, on peut imaginer les conséquences dramatiques que ça peut avoir.
Justement, c'est ça, c'est un point sur lequel vous insistez, c'est l'absence de soins médicaux lorsque cela pourtant est nécessaire. Est-ce que c'est délibéré ?
Alors, on a pu prouver à travers, effectivement, une enquête menée l'année dernière que les autorités égyptiennes refusaient délibérément l'accès aux soins aux prisonniers qui en avaient besoin, et notamment les prisonniers, justement, qui étaient arrêtés dans le cadre d'affaires politiques. Ils font l'objet de traitements punitifs parce qu'ils sont vus, perçus comme opposants vis-à-vis du gouvernement. Et donc, effectivement, celles et ceux qui vont souffrir de maladies ne vont pas être transférés vers un hôpital, ne vont pas avoir accès à des soins. On va aussi leur priver des visites familiales et on sait que ce sont les familles qui emmènent des médicaments, qui emmènent la nourriture saine. On va aussi les mettre à l'isolement prolongé, parfois 23 heures par jour. Donc, c'est effectivement ça qu'il faut entendre. Et donc, on a documenté des cas de personnes qui avaient besoin de soins, qui réclamaient des soins et les autorités délibérément ne répondaient pas, ne les transféraient pas. Et donc, effectivement, ce sont des situations qui ont à certains moments conduit à la mort des détenus.
Et parmi ces personnes qui n'accueillent pas de soins, il y a des personnalités, notamment un ancien candidat à l'élection présidentielle lors de la dernière élection.
Absolument. Abdelmonem Aboulfoto, qui est un ancien candidat à l'élection présidentielle, qui est détenu à l'isolement depuis février 2018, qui souffre de plusieurs soucis de santé, de diabète notamment, d'hypertension. On lui refuse systématiquement l'accès aux soins. Il n'a jamais été transféré à l'extérieur vers un hôpital ou une installation extérieure pour être soigné. Ce n'est pas le seul. On peut aussi penser à Ziad El-Halimi, qui est un ancien parlementaire, avocat des droits humains, figure de proue de la révolution égyptienne, qui a aussi des problèmes de santé, qui a aussi été arrêté, maintenu en détention arbitrairement et à qui on refuse systématiquement des soins.
Quelles sont les raisons qui poussent les autorités justement à agir de cette façon-là par rapport à ces personnalités ?
Ce sont clairement des traitements punitifs, c'est-à-dire des actes de représailles contre leur militantisme politique pacifique. On sait que les conditions de détention, de manière générale, ne sont pas bonnes. Mais pour les prisonniers d'opinion, elles sont absolument tragiques, catastrophiques. Et dès lors que ces personnes essayent effectivement de dénoncer, elles subissent des pressions, des intimidations, des mauvais traitements. Leurs familles aussi, qui essayent de se mobiliser pour dénoncer ces conditions, sont menacées, parfois arrêtées. Donc il y a là une volonté de les faire taire, de les punir encore plus de leur militantisme pacifique. Et cette situation ne peut absolument pas durer.
Et par exemple, est-ce que Rami Shahat est aujourd'hui toujours dans des conditions difficiles en prison ?
Absolument. Rami Shahat, qui a donc été arrêté en juillet 2019, malheureusement a vu dimanche dernier sa détention être renouvelée pour la 21e fois, sans qu'aucune preuve, aucun élément ne vienne étayer en fait son maintien en détention provisoire, puisqu'il n'a toujours pas été jugé. Donc oui, il se retrouve toujours dans une cellule surpeuplée, sans accès à des installations sanitaires. Les conditions ne s'améliorent pas. Il a été, on le sait, ajouté l'année dernière à la liste des entités terroristes. Il a fait appel de cette décision et donc une audience se tiendra le 10 février prochain. On espère effectivement que la décision sera abandonnée. Mais oui, sa femme continue, Céline Lebrun, à mener le combat pour sa libération depuis la France. Et Rami Shahat est une figure emblématique aussi de ce mouvement pour les droits humains en Égypte et de la répression des autorités sans faille.
Parlons de la crise actuelle sanitaire du coronavirus qui touche évidemment l'Égypte comme bien d'autres pays. Comment ça se passe dans les prisons ?
Eh bien, c'est absolument catastrophique. Il n'y a pas du tout de procédure coordonnée de prise en charge de la situation en matière de pandémie, du Covid. Très concrètement, quand des prisonniers arrivent, ils ne sont pas triés, tracés ou testés, même s'ils présentent effectivement des symptômes. Les personnes qui vont présenter des symptômes vont être soit envoyées dans des cellules qui sont utilisées pour l'isolement, donc qui sont des cellules très exiguës, sombres, sans aération, sans dispositif sanitaire, soit elles restent directement dans les cellules avec les co-détenus, avec le risque effectivement de propager le virus. Donc il n'y a aucune mesure qui est prise en place, il n'y a aucun soin qui est dispensé. Les infirmiers ou le personnel effectivement médical distribuent des analgésiques comme pour traiter n'importe quel symptôme. Donc il n'y a aucune mesure spécifique Covid qui a été mise en place par les autorités.
Et donc est-ce que l'on constate une mortalité accrue ?
Alors c'est très difficile tout simplement parce que les autorités égyptiennes refusent de publier des chiffres sur le nombre de personnes infectées par le Covid ou sur le nombre de morts en prison. Nous avons nous-mêmes enquêté dans le cadre de la recherche qu'on vient de publier sur 12 cas de décès en prison liés à la détention ou juste après la libération. On a aussi eu cas de 37 autres personnes qui sont mortes en prison. On n'a pas pu publier ces informations parce que les familles ont peur de représailles si on publie ces informations. Et les organismes de défense des droits humains parlent de centaines de personnes qui sont mortes en prison depuis 2013. Donc effectivement, on a très peu d'informations sur ce qui se passe. On peut craindre le pire compte tenu des conditions de détention et compte tenu du manque de procédures délibérées de la part de l'administration pénitentiaire égyptienne.
Katia Roux, vous disiez en début de cet entretien que les prisons en Égypte étaient surpeuplées. De quand date précisément cette surpopulation dans la prison égyptienne ?
Donc il est très difficile effectivement de chiffrer le nombre de détenus en prison. Nous savons que depuis l'arrivée de Sisi au pouvoir, de nouvelles installations pénitentiaires ont été construites. Nous avons enquêté sur 16 prisons dans le cadre de la recherche que nous publions. Encore une fois, il est très clair que la répression menée par le gouvernement égyptien depuis 2013 et 2014 n'a fait que remplir effectivement les prisons égyptiennes et donc qui sont aujourd'hui au double de leur capacité d'accueil.
Est-ce que les prisons, malgré tout, restent sous la surveillance du ministère de la Justice égyptienne ?
Eh bien, c'est là tout le problème. Il n'y a aucun contrôle qui existe sur ce qui se passe dans les prisons. Donc, aucune manière de faire le suivi et l'administration pénitentiaire peut agir en toute impunité. Évidemment, les procureurs ont le droit de se rendre en prison. Ils ne le font que très rarement et quand ils le font, ils ne font pas cas des suites des plaintes qui sont déposées. Donc, ça fait partie de nos demandes, bien sûr, de pouvoir accepter la visite d'experts indépendants pour constater la situation, faire des recommandations et évidemment les mettre en œuvre.
Diriez-vous que la situation carcérale aujourd'hui en Égypte est pire que sous l'ère Moubarak il y a 10 ans donc ?
Du fait des arrestations arbitraires massives, effectivement, on peut craindre une surpopulation galopante sur ces dernières années. Et donc, avec tous les éléments qu'on a déjà partagés, la situation est dramatique et de pire en pire, effectivement. Dans le contexte de pandémie actuelle, effectivement, on est encore plus préoccupé par l'impact que ça peut avoir sur la santé et sur la vie des détenus. Donc oui, aujourd'hui, la situation est alarmante. Beaucoup d'acteurs internationaux, d'agences, d'institutions ont interpellé les États, et notamment l'Égypte, pour notamment libérer les personnes qui n'ont rien à faire en prison, comme les prisonniers d'opinion ou les défenseurs des droits humains. Pour le moment, l'Égypte reste sourde à ces appels.
Donc aucune pression internationale ne réussit à peser sur les choix du président Sisi.
Malheureusement, c'est ce qu'on constate. Il y a eu plusieurs recommandations qui ont été faites par l'OMS, par d'autres institutions. Aujourd'hui, les autorités égyptiennes ne répondent pas du tout à ces demandes. La première chose à faire, encore une fois, c'est de limiter la surpopulation carcérale en libérant celles et ceux qui n'ont rien à faire en prison. Même ça, ça n'est pas fait. Donc, effectivement, on appelle les autorités à dispenser des soins, à fournir un accès à des soins médicaux urgents aux personnes qui en ont besoin, et puis à accepter la visite d'experts internationaux ou indépendants. Ça n'est pas le cas. L'Égypte, aujourd'hui, se mure dans son silence, ne fait aucun cas des recommandations des interpellations. Ça ne peut pas durer comme ça.
Merci Katia Roux.
Merci Eric Bataillon.
Chargé de plaidoyer liberté à Amnesty International France.
صوتي عالي لكن ما كنتش عارف ايضا انه نحنا بالبراري ما كلنا وحوش ما كلنا اسود وباي لحظه ممكن يجي ياخدوا داري حاملين معهم صواريخ من هون للمريخ الما حيموت متفجر حيموت من الصريخ حفله عالميه وقودها الناس والحجاره رجعونا الف سنه لورا وقولوا عنا بلا حضاره طخ الشيطان وضوي عليها الاناره خليه يبين مع اصحابه الشياطين الفيلم مكفي راح نضل قاعدين خليه يبين مع اصحابه الشياطين الفيلم مكفي راح نضل قاعدين وال كان في شيطان بالبيت وعمال بيقطع فينا من الشمال لليمين وين اخينا كان في شيطان بالبيت وعمال بيقطع فينا من الشمال للي ابو حميد وين اخينا وال كان في شيطان بالبيت وعمال بيقطع فينا من الشمال لليمين وين اخينا كان في شيطان بالبيت وعمال بيقطع فينا
Orion Hebdo sur RFI.
Le groupe Al-Aharin, fruit de la rencontre entre la flûtiste franco-syrienne Naysam Jalal et le rappeur palestinien Osloub. Il vient de recevoir à Paris, avec trois autres lauréats, le prix des musiques d'ici, Diaspora Music Awards. On change de registre en retrouvant Alexandre Bouchanté au Caire et Michel Paul à Jérusalem pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Une première page politique. Alexandre, la presse arabe scrute de près le positionnement de la nouvelle administration américaine à l'égard du Proche-Orient et notamment de l'Iran.
Oui, les journaux rapportent d'abord une conversation téléphonique entre le chef de la diplomatie des Émirats et le nouveau secrétaire d'État américain sur la coopération stratégique entre Washington et Abu Dhabi. Côté saoudien, les journaux indiquent que Riyad a reçu des assurances américaines quant à la poursuite de la protection du royaume contre les menaces extérieures. Toutefois, plusieurs éditorialistes estiment que la nouvelle administration américaine pourrait avoir hérité de la politique du président Barack Obama de normalisation graduelle des relations avec l'Iran en contrepartie de l'arrêt du programme nucléaire militarisable de Téhéran, un objectif sur l'autel duquel pourrait être sacrifié l'arrêt de l'expansionnisme et de l'ingérence régionale de l'Iran, écrit un éditorialiste. L'Iran, que certains journalistes pointent du doigt après l'assassinat d'un opposant libanais au Hezbollah pro-iranien.
La politique israélienne, Michel Paul, nouvelle étape de la campagne électorale, on connaît désormais les forces en présence.
Et Haaretz, le journal d'opposition, tente de résumer la situation au lendemain de la clôture du dépôt des listes. Plusieurs météores du centre-gauche, notamment le maire de Tel Aviv, ont dû passer par la case vestiaire. C'était le cas aussi de l'ancien chef d'état-major, Moshe Yaalon, qui a compris que son parti de centre-droit n'avait aucune chance de franchir le seuil électoral le 23 mars prochain. Et surtout, le grand parti, la liste arabe unifiée, se scinde en deux entités aux noms très proches l'une de l'autre, ce qui risque de provoquer des confusions. L'une d'entre eux, à tendance islamique, flirte curieusement sérieusement depuis un certain temps avec le Likoud de Benjamin Netanyahou. Le Likoud qui présente pour la première fois un candidat arabe musulman et à droite, la presse souligne deux événements. L'union entre un parti kahaniste et un parti religieux, cela pourrait permettre aux deux groupuscules de franchir de justesse le seuil électoral. Il y a aussi la décision du parti du foyer juif de ne pas se présenter aux élections. Alors, Eric, en tout cas, ce ne sont pas moins de 39 listes qui seront en compétition le 23 mars. Mais rassurez-vous, si vous aviez des inquiétudes à ce sujet, on n'entendra plus jamais parler de la plupart d'entre elles, comme la liste des pirates qui se présentent à chaque consultation. Et cette fois, coronavirus oblige, la liste Rafa, dirigée par un médecin et qui propose un programme anti-vaccination et affirme que la pandémie a été inventée de toutes pièces.
Et que donnent les sondages, Michel ?
Eh bien, le Likoud, le parti de Netanyahou, reste toujours en tête des sondages et de loin, 29 sièges sur les 120 que compte la Knesset, d'après un sondage Mariv. Eric, les deux partis suivants dans ce sondage n'obtiennent que 16 sièges. Bleu-blanc, le parti de Benny Gantz, ne serait pas représenté du tout à la prochaine Knesset. Netanyahou semble toujours être le candidat favori des Israéliens pour le poste de Premier ministre. Mais pour la première fois, il a des challengers. Et puis aussi, le bloc des partis anti-Bibi atteint 61 sièges, selon ce sondage. Donc, pas de coalition possible pour la droite nationaliste.
Nous allons maintenant sur le front de la crise sanitaire. Alexandre, c'est le branle-bas de combat dans de nombreux pays arabes et notamment dans le Golfe.
Oui, et la question que se posent plusieurs journaux, au vu de la recrudescence des nouveaux cas de coronavirus dans les pays arabes, c'est est-ce que on va revenir à la case départ? Les pays du Golfe qui avaient progressivement levé leurs restrictions en tablant sur une vaccination massive commencent à revoir leurs décisions. Les restaurants, les cafés, mais aussi les cinémas et les manifestations culturelles sont fermés ou suspendus. Restrictions aussi sur les lieux de culte et en dehors des pays du Golfe et notamment les Émirats, la campagne de vaccination est encore balbutiante dans le monde arabe et parfois même inexistante dans une région qui compte quelque 430 millions d'habitants, presque autant que l'Europe.
Coronavirus, toujours, il y a une diplomatie du vaccin de la Russie et de la Chine dans le monde arabe, Alexandre.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, la Chine vient d'annoncer qu'elle faisait don à l'Égypte de 300 000 doses du vaccin Sinopharm. Pékin s'est aussi engagé à fournir 150 000 doses à la Syrie. La Russie a, quant à elle, commencé à livrer le vaccin Sputnik V à l'autorité palestinienne, tout comme elle l'a fait pour l'Algérie, indiquent les journaux. Même si les quantités livrées semblent une goutte d'eau par rapport aux populations concernées, l'effet de solidarité recherché est atteint. L'Occident, quant à lui, est absent.
Michel Paul, quoi de neuf en Israël sur ce front du coronavirus ?
Eh bien, un nouveau cap a été franchi, celui des 5000 morts. Le gouvernement discute et le nombre de décès augmente, récapitule un quotidien. Le confinement prolongé de quelques jours, mais les journaux sont unanimes. Il faudra à nouveau confiner pour la quatrième fois pour la fête de Pourim, le carnaval juif. Et dans la presse aussi, le ralentissement des vaccinations, le phénomène des réfractaires à la seconde dose. Et ce titre dans le journal gratuit Israël Hayom, qui est le quotidien le plus lu en Israël, le risque de ceux qui ne se vaccinent pas est en hausse. Haaretz revient sur une proposition du Premier ministre, une réouverture pour les détenteurs de certificats de vaccination, mais poursuite du confinement pour les autres. Et puis aussi une note d'optimisme, Eric. CD24, c'est une molécule à retenir. En tout cas, elle donne d'excellents résultats contre le Covid-19 à l'hôpital Ichilov de Tel Aviv.
Merci Michel et merci Alexandre. Orient Hebdo, réalisé par Mathias Golchani. Retrouvez-nous en podcast avec notre application Pure Radio ou sur le site de la radio www.rfi.fr. Demain, pas d'émission Orient Hebdo car RFI retransmet la finale du championnat d'Afrique des Nations de football qui opposera le Mali au Maroc. On se retrouve donc samedi prochain. Portez-vous bien.
La marche du monde. Ils sont maçons, fils de militaires, paysans,